Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Culture Génium. Aujourd'hui, on est dans le centre-ville de Lyon, dans le quartier d'Ainay. Et ce que vous entendez là, c'est la cloche de l'église Saint-Martin d'Ainay dont on va parler aujourd'hui. Et pour nous accompagner durant cette visite, c'est Jean-François Reynaud, qui est un spécialiste d'histoire de l'art et d'archéologie médiévale. C'est parti.
Je voudrais vous présenter l'église de Saint-Martin d'Ainay, qui est une église abbatiale, monastique, qui est devenue paroissiale par la suite. Et c'est une des rares églises romanes de Lyon, il y en a quelques-unes, mais c'est une des plus connues. Mais pour une église romane, quand on rentre dans l'église, quand on rentre dans cette nef, quand on connaît un petit peu l'histoire de l'art, ça ne fait pas trop penser à du roman. Alors, vous, ça vous fait penser à quoi ?
De l'antique.
De l'antique, et pourquoi ?
Les colonnes.
À cause des colonnes, à cause de la double colonnade qu'on trouve effectivement dans les églises romaines. Et ces colonnes sont des remplois. Des remplois, on ne sait pas si c'est d'époque carolingienne ou d'époque romaine. Ce qu'on sait, c'est que les quatre colonnes de la croisée du transept sont des remplois antiques provenant
de l'autel de Rome et d'Auguste, sur la colline de la Croix-Rousse.
Voilà. Là où aujourd'hui il y a un amphithéâtre.
Qui était à côté de l'amphithéâtre. Alors, vous voyez que ça nous fait remonter au lointain passé des origines de l'abbaye, on en reparlera tout à l'heure, origine carolingienne ou origine de l'Antiquité tardive. Voilà, nous sommes sortis de l'église,
oui.
Nous y reviendrons tout à l'heure.
D'accord.
Nous sommes sur le parvis et nous sommes face au clocher-porche. Clocher-porche qui est une des parties les plus anciennes de l'église. Alors là aussi, on va essayer de voir pourquoi. Ce clocher-porche, il n'est pas tout à fait dans la tradition romane. Il a des particularités, comme nous l'avons vu à l'intérieur. Alors essayez de voir quelles sont ces particularités. Qu'est-ce qui vous paraît original par rapport à ce que vous savez de l'art roman ?
Moi, ce qui me frappe quand je vois cette façade, ce sont les ornementations, enfin les briquettes rouges.
Voilà,
c'est. Je n'arrive pas à voir d'ici si c'est des peintures ou si.
Alors, vous aviez tout à fait raison, c'est l'utilisation de la brique. Et la brique, c'est ce que l'on trouve dans les édifices romains, encore conservés à Lyon, et qui étaient encore plus visibles au XIIe siècle, les aqueducs par exemple. Donc, une des originalités de ce clocher-porche, c'est l'utilisation de la brique. La brique, pour l'entourage des fenêtres, par exemple, ou à l'intérieur des fenêtres. Alors, pourquoi un clocher-porche à l'ouest de l'église ? Nous allons voir qu'il y aura un autre clocher dans la partie orientale. À l'ouest de l'église, c'est parce que c'est à l'entrée de l'église. Et alors, à quoi sert un clocher ?
À être repéré dans le paysage, non ?
C'est vrai, je voulais mettre ça en deuxième élément, mais le clocher, voilà, le clocher supporte une cloche. Et il faut qu'il soit assez élevé pour que justement on l'entende d'assez loin. Donc le clocher, c'est un élément vertical. Pour que les cloches, le son des cloches soit entendu de loin, mais c'est aussi un élément vertical, c'est un mouvement ascensionnel vers le ciel, et c'est aussi une affirmation de puissance. Puissance face par exemple au pouvoir civil, pas trop ici, on verra que le monastère s'est installé un petit peu à l'écart des habitations, mais donc on est là dans un des éléments les plus anciens de l'église, qui nous fait remonter là encore à l'époque romaine, en tout cas dans les remplois, et qui a une valeur importante, c'est le début du cheminement vers le salut qui va nous mener dans la partie orientale de l'église.
Maintenant, vous allez nous montrer quelle partie.
Alors, on va regarder la partie basse de ce clocher et après, nous irons voir le chevet de l'église.
Très bien.
En levant les yeux, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne correspondent pas du tout à l'art roman. Et qu'est-ce que vous apercevez là ?
Je vois une voûte en ogive.
Une voûte d'ogive. Et les voûtes d'ogive vous font penser, bien sûr,
plutôt au gothique.
Au gothique. Alors, ce gothique, qui est le gothique commençant des années 1180, c'est exactement celui qu'on trouve dans les premiers travaux de la cathédrale Saint-Jean. Et ça nous permet de dater donc modification de la base du clocher qui comporte également des masques grimaçants au-dessus de pilastres. Et nous avons aussi un tympan installé au-dessus du linteau, un tympan qui n'est pas du tout roman, même s'il évoque l'époque romane, puisque c'est une copie du tympan de Saint-Trophime d'Arles. Mais c'est une sculpture de Fabiche, je crois, qui est un sculpteur qui a beaucoup travaillé ici et qui travaille au 19e siècle.
C'est vrai que quand on voit ce tympan, on pense pas... Enfin, moi, ça me fait pas penser à la Roman.
Si, parce que, en tout cas, le thème, c'est celui du Christ entouré du tétramorphe, c'est-à-dire des quatre évangélistes, c'est celui qu'on trouve sur beaucoup de tympans romans. Nous sommes devant le chevet de l'église Saint-Martin-d'Ennet et un chevet assez complexe. En fait, il y a quatre éléments différents. Une chapelle dite Sainte-Blandine, l'église Saint-Martin, une chapelle du XVe siècle et des éléments qui appartenaient à une église qui a été en grande partie détruite au XIXe siècle. Mm-hmm. Alors, la partie la plus ancienne, regardez bien. Ce que vous allez voir va vous rappeler quelque chose dans le décor.
Les briques.
Voilà, les briques. C'est la chapelle Sainte-Blandine. On verra à l'intérieur pourquoi ce vocable qui rappelle les martyrs. L'église principale, Saint-Martin. Saint-Martin avec son abside semi-circulaire, avec son clocher. Et de l'endroit d'où nous sommes, on voit très bien les deux clochers.
Oui.
Alors pourquoi deux clochers? Parce que au XIe siècle, on voulait mettre l'accent sur l'entrée, et là, on veut mettre l'accent sur la partie orientale de l'église.
À quelle époque, c'est-à-dire?
Là, on est au XIIe.
D'accord.
Une chapelle gothique flamboyante, on la verra mieux à l'intérieur. Et puis, cette toute petite partie avec une porte à claveaux de briques, c'était une église un peu plus grande, mais de petite taille, sous le vocable de Saint-Pierre. Alors, pourquoi trois églises différentes? Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut représenter?
C'est des remaniements, c'est des...
Alors, il peut y avoir des remaniements, des reconstructions. Mais pourquoi on reconstruit une église?
Parce qu'elle est détruite, elle change de...
Oui, elle est détruite, elle n'est plus à la mode, elle est trop petite, donc on en veut une plus grande. Les fonctions peuvent varier aussi. Il peut y avoir une église funéraire, l'église principale, des chapelles annexes. Voilà, tout ça nous montre que nous sommes dans un contexte qui est à la fois celui des abbayes, mais qu'on retrouve aussi pour les groupes cathédraux. Donc plusieurs églises avec des fonctions différentes et construites à des époques différentes également, mais souvent conservées. Pourquoi est-ce que les moines se sont installés ici, dans une zone qui a été occupée à l'époque antique? Parce que non seulement la colline de Fourvière et la colline de la Croix-Rousse étaient occupées, mais la ville antique s'étendait jusqu'au confluent qui était à quelques dizaines de mètres ici. Mais au 3e, 4e siècle, la ville se déplace, elle s'installe, disons, autour de ce qui va être la cathédrale, et le sud de la presqu'île est à l'abandon. Donc, on installe des moines dans une zone qui est un peu désertique, qui n'est plus habitée, mais quand même sur une zone de passage. Nous sommes maintenant à l'intérieur de l'église, mais dans la petite chapelle Sainte-Blandine, qui est une annexe de la grande abbatiale. Alors, Sainte-Blandine, ça vous évoque quoi?
Un martyr.
Une martyre, oui. Martyr. Ça vous évoque les martyrs de Lyon de 177. Donc, en 177, les chrétiens de Lyon ont été martyrisés à l'amphithéâtre. Ça a duré plusieurs jours. Sainte-Blandine a été une des martyrs. Et tous ceux qui étaient morts, qui avaient mort en tant que martyrs, ont été brûlés et les cendres ont été jetées dans le Rhône. Alors, pourquoi est-ce qu'on vénère Sainte-Blandine ici à Ennet? Bon, ils avaient récupéré un sac de cendres, ils avaient récupéré la pierre où Potin avait posé sa tête, Il prétendait aussi avoir les reliques de Sainte-Blandine, mais je pense que surtout, l'évêque de Lyon, qui était souvent l'abbé du monastère d'Ainay, voulait faire contrepoids à Ainay, qui dépendait de lui, à l'église de Saint-Lizier, qui dépendait des bourgeois de Lyon. Mais alors, pour vénérer ces cendres et ces reliques, il fallait une chapelle et il fallait une crypte. Alors malheureusement, on n'a pas beaucoup de textes. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on regarde ce décor, quand on regarde l'intérieur de l'église, où il n'y a pas de décor de briques, mais où il y a des chapiteaux avec des entrelacs et des rosaces, qui remonteraient bien au XIe siècle, on a dû aussi aménager une crypte, peut-être un peu plus tardivement, et c'est dans cette crypte qu'étaient déposées les reliques, les cendres des martyrs. Vous avez remarqué que cette crypte est toute petite, voire minuscule. Mais il y a plusieurs éléments intéressants. D'abord, pour la partie ancienne, vous avez deux niches à reliques de chaque côté. Une qu'on voit bien, elle est fermée par une grille, mais elle est assez profonde et elle pouvait renfermer donc plusieurs squelettes. Et tout ça a été très restauré au XIXe siècle. Du XIXe siècle remonte cette mosaïque de pavement avec tous les noms des martyrs. Vous avez sous vos pieds Sanctus, puis Maturus, puis Attal, puis Alexandre, puis Pontique, etc. Et dans les années 1850, on a fait appel à un peintre qui a réalisé cette série de peintures qui représentent des miracles du Christ, de Christ libérateur. Mais elles se sont très vite abîmées à cause de l'humidité et elles n'ont pas été restaurées parce que ce peintre Freinet était un horrible révolutionnaire et ça ne collait pas tout à fait avec la mentalité des gens d'église de l'époque. Donc voilà, il nous reste cette reconstitution qu'on a pu présenter ici et puis cette représentation de la déploration du Christ qui est, je pense, un pastel toujours de Freinet.
D'accord. Donc, ces peintures, elles étaient...
Voilà, elles étaient sur la voûte.
Sur la voûte. D'accord. Ah oui, c'était très coloré. Enfin,
C'était relativement coloré, de la belle peinture, mais qui n'a pas résisté aux pas aux intempéries, mais à l'humidité du lieu. Il faut que nous regardions cette mosaïque. Elle n'est pas du tout à sa place. Elle était autour de l'autel que l'on va voir dans un instant. Cette mosaïque a été déposée dans les années 1930, mais elle a été profondément modifiée. On a donc un personnage qui tient une maquette. Ce personnage, on s'est posé des questions. Est-ce que c'était un pape? Est-ce que c'était un évêque? En fait, il y avait une inscription qui nous disait bien que c'est le pape Pascal II qui, en 1107, a procédé à la dédicace de l'Église. Donc, cette date est importante parce qu'elle se place dans le contexte de la lutte entre l'empereur et le pape, la fameuse réforme grégorienne, et on s'en sait, ça nous donne aussi la date de la construction de l'église, peut-être de l'achèvement, mais pas obligatoirement. Alors, cette mosaïque a été trop restaurée. Le personnage, qui est donc le pape Pascal II, était assis, donc il n'était pas très grand, et le restaurateur s'est dit, mais ça ne va pas, il faut lui donner la taille d'un personnage normal. On a donc pris la maquette de l'église qui était à côté du pape et c'est devenu le bas de la chasuble du personnage qu'on a sous les yeux.
Tout ce qui est quadrillé.
Tout ce qui est quadrillé, c'est l'appareil, c'est les moellons de l'église. Et on a déplacé les pieds qu'on a mis à la base. Cette mosaïque donc, qui était autour de l'autel et qui était encadrée par deux textes qui présentaient les sacrements principaux de l'Église, la pénitence et l'Eucharistie. Nous sommes maintenant dans la partie la plus sainte de l'Église, c'est-à-dire le chevet, le cœur, mais à l'intérieur. Il faudrait définir un peu ce qu'est une Église. Une église, c'est la maison de Dieu et la maison des hommes. Alors, la maison de Dieu, il y a l'autel où l'on célèbre la messe, l'autel où se trouvent le clergé, les prêtres, et pas très loin, les moines. Donc, il y a une partie un peu fermée, un peu réservée. Et il y a la partie plus ouverte au public, les nefs, où nous étions tout à l'heure. La maison de Dieu et la maison des hommes, l'Église s'est faite pour permettre la progression de l'homme vers son salut. Et pour arriver au salut des fidèles, il faut que le clergé apporte un enseignement. Et cet enseignement, il est fourni par les sculptures, par les mosaïques, par les peintures. Nous avons donc dans les deux bas-reliefs qui sont à l'entrée du chœur la représentation de la lutte entre le bien et le mal et en résumé toute l'histoire de l'humanité depuis Adam et Ève, le péché, l'incarnation, donc l'arrivée du Christ sur terre et le salut. Alors du côté gauche, côté nord, le meurtre d'Abel par Caïn, et Dieu choisit Abel, d'où la jalousie de Caïn qui tue son frère. Donc c'est le péché. Mais à côté, nous avons la lutte contre le mal, c'est l'archange Saint-Michel qui perce le dragon de sa lance. Alors de l'autre côté, nous avons à nouveau le péché, Adam et Ève. Et ils tiennent la pomme, on voit très bien l'arbre avec le serpent. Et puis ensuite, nous avons Adam et Ève chassés du paradis par Dieu. Et alors de l'autre côté, l'Annonciation. L'Annonciation, c'est l'annonce de l'incarnation, donc du salut du Christ, du salut de l'humanité par l'arrivée du Christ, sa mort et sa résurrection. Et sur le côté gauche de ce bas-relief, nous avons le Christ entouré des quatre évangélistes. Cet enseignement se prolonge dans la partie semi-circulaire de l'abside avec ses pilastres décorés de médaillons. Alors sur ces médaillons, on voit par exemple des animaux, les créatures qui sont rassemblées pour vénérer leur sauveur, vénérer le Christ, la représentation de chiens. Le chien, ce sont les infidèles, les idolâtres, tous ceux qu'il faut rejeter, qui n'arriveront pas au salut. D'accord. Donc, cette interprétation des médaillons, vous la trouverez dans le petit livre, un ouvrage collectif qui vient de sortir sur l'église de Saint-Martin-d'Aîné.
Vous avez dit juste avant que la nef, enfin, que là on était dans la partie la plus sacrée, oui. Et que la nef était plutôt réservée aux fidèles.
Oui.
Alors comment les fidèles ont accès à ces images qui sont physiquement éloignées de comment ils lisent?
Alors elles sont plutôt réservées aux moines, effectivement, mais il y avait des moments où, pour les grandes fêtes solennelles, les fidèles pouvaient peut-être approcher un peu plus. Nous passons de l'époque romane au XIXe siècle. On a envisagé de détruire l'église pour la reconstruire. En fait, on a décidé de la garder, de la restaurer, de l'agrandir même, parce que le XIXe est une grande période de renaissance religieuse. Alors, des architectes ont pris les choses en main. Ces architectes du XIXe qui commencent à s'intéresser au Moyen-Âge, Moyen-Âge gothique, puis Moyen-Âge roman, et ils décident de faire retrouver à l'église son aspect roman. Au départ, nous avions trois nefs charpentées, et vous avez maintenant sous les yeux une voûte. Mais ce n'est pas une voûte ancienne, c'est une voûte du XIXe siècle. Donc on veut faire plus roman que le roman, c'est une église qui devient néo-romane. Le peintre Flandrin a évoqué l'histoire de l'abbaye et l'histoire de la ville. Par exemple, quels sont les personnages représentés?
Vous nous avez parlé de Saint Potin.
Voilà, alors on peut commencer par Saint Potin. Saint Potin, c'est le premier évêque de Lyon, c'est l'évocation des
martyrs.
Des martyrs. Mais vous avez aussi Saint-Michel. Alors Saint-Michel, ça paraît peut-être curieux, mais vous aviez à proximité immédiate une basilique construite par la reine Carétène, qui était la femme du roi Burgonde Gondebaud, qui était à 200 mètres d'ici. Donc il y a une certaine logique à mettre Saint-Michel ici, puisque ça a été un des premiers endroits en Gaule où l'on a vénéré cet archange. Nous sommes donc dans la chapelle Saint-Michel, une chapelle annexe, mais importante comme vous le constatez. Cette chapelle est remarquable par ses vitraux. Alors bien sûr, des vitraux qui ont été refaits au XIXe siècle par un des meilleurs maîtres verriers lyonnais, Bégule. Alors, ces trois vitraux sont les plus beaux de l'abbatiale. Ils représentent les archanges, l'archange Saint-Michel, l'archange Gabriel, celui de l'Annonciation, et l'archange Raphaël, celui de l'histoire de Tobie. C'est des véritables peintures, comme on savait les faire au XIXe siècle, c'était des artistes remarquables. Bon, c'est pas tout à fait l'ambiance médiévale, mais ce sont quand même des chefs-d'œuvre. Un autre intérêt de cette chapelle, c'est la maquette qui se trouve là devant moi, qui nous permet de comprendre ce qu'était une abbaye avec toutes ses dépendances entre le XIIe et le XVe siècle. On voit bien l'église abbatiale, la chapelle Sainte-Blandine, la chapelle Saint-Pierre plus grande que maintenant, mais surtout au nord, des bâtiments qui ont presque entièrement disparu, le cloître, le réfectoire, la salle du chapitre. Il reste encore quelques arcs, mais ils sont difficilement accessibles, de cette salle du chapitre. Et puis il y avait là le palais abbatial, le palais abbatial reconstruit au XVe siècle. J'espère que vous avez bien compris ce qu'était une église abbatiale, même s'il manque tous les bâtiments abbatiaux, le cloître, la salle du chapitre, etc. Une église du XIIe siècle, comporte aussi des éléments plus anciens qui nous permettent de remonter jusqu'aux origines, et que cette église, qui devient paroissiale, continue à vivre, continue à être modifiée jusqu'à nos jours.